Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, étude biblique sur le livre de l'Apocalypse, 17e partie, Babylone, suite.
Bonjour à chacun, nous allons ouvrir tout à nouveau notre Bible. Alors, est-ce que vous vous souvenez de notre propos de dimanche dernier? Oui? Ça vous a marqué? J'espère que ça vous a pas terrorisé. Non? Je vois des gens qui sont complètement effrayés dans le fond. Voilà. Alors, on va ouvrir tout à nouveau le livre de l'Apocalypse. Voilà, on a eu toute une suite là pendant quelques jours. Alors, je vous propose que nous ouvrions donc ce fameux livre de l'Apocalypse au chapitre 17. Et je vais faire un petit récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas là ou tout simplement pour ceux qui étaient là, nous rafraîchir un petit peu notre mémoire. Et il était question d'une chose étrange dont nous parle le chapitre 17. C'est cette histoire qui est dans l'illustration d'une ville qui s'appelle Babylone, et où il est question d'une grande prostituée, excusez-moi du terme, mais c'est quand même la Bible qui le dit, d'une grande prostituée qui est l'image, finalement, par-delà le voile mystérieux, que l'on appelle le mystère de l'iniquité, selon les propres mots de l'apôtre Paul, qui véritablement représente l'Église. Mais attendez, pas n'importe laquelle. C'est pas l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église apostate. Et je rappelle le sens de ce mot. Le mot apostat, qui a donné apostasie, c'est le rejet de la vérité. C'est le rejet de Dieu, le rejet de Jésus en tant que sauveur et seigneur. Et il y a là, dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de l'humanité, cette marche en parallèle de la véritable Église de Jésus-Christ, avec des hommes et des femmes, je le rappelle pour mémoire, repentis de leurs péchés, convertis non pas à un mouvement ou à une église ou à une dénomination particulière, mais convertis à Jésus-Christ, dont il est le Sauveur et le Seigneur, et puis avec cette expérience que nous faisons les uns et les autres de la nouvelle naissance, naître de nouveau par le Saint-Esprit. Alors voilà, donc, il était question de cette grande prostituée ou l'église apostate qui est alliée avec la bête. Vous avez, en effet, nous en avons parlé savamment dans le chapitre 13, il y a naturellement la trinité diabolique que l'on appelle la bête. Et on va rouvrir donc tout simplement ce livre au chapitre 17, je l'ai déjà dit, et on va reprendre tout simplement le verset 3 pour nous ramener en mémoire ce qui avait été vu la dernière fois. Alors voilà, il est question d'un ange qui transporte l'apôtre Jean, le visionnaire de l'Apocalypse, celui qui écrit l'Apocalypse. Alors il me dit « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, des chrétiens, et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » Et c'est là où nous recommençons notre méditation. Il est dit ceci, « L'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » La semaine passée, nous avions parlé du mystère de la femme, de cette femme impudique, et là nous allons parler du mystère de la bête. sur laquelle cette femme est montée, elle chevauche. Je te dirai le mystère. On avait médité sur cette imprégnation du monde antique par la mythologie. Vous vous souvenez, hein, on avait dit que dans l'histoire d'Israël, hein, à l'extérieur naturellement du peuple, et dans toutes les grandes civilisations et les grands empires qui étaient là, en effet, tout autour, hein, du temps des apôtres, la mythologie était omniprésente. La croyance des hommes, de l'humanité, était avant tout eh bien, une croyance dans le polythéisme, c'est-à-dire l'adoration de plusieurs dieux, d'une multitude de dieux et de faux dieux, vus naturellement et déclarés par la Bible. Donc la mythologie. Et chose assez étrange, c'est qu'on pourrait penser que la mythologie, ça fait partie de l'histoire ancienne. Alors peut-être dans les formes, les choses ne sont plus. Mais dans l'esprit, c'est toujours la même chose aujourd'hui. Et on en avait fait la démonstration, en tous les cas le commentaire bref la semaine dernière, parce qu'il s'agissait donc de cette femme, on l'a lu, qui chevauche la bête. Et nous avions tiré de ces histoires de la mythologie grecque l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Europe, oui, qui s'appelle Europe, et qui chevauche cette bête et qui est violée par elle. Voilà, ce sont des choses abominables, hein, que nous sommes en train de dire. Mais pourtant, il y a derrière, eh bien, une grande vérité, parce que la Bible est là pour dénoncer, elle est là pour mettre en lumière, pour lever le voile, pour enlever l'opacité dans laquelle souvent le monde, eh bien, est renfermé, sans s'apercevoir que quelque part, ce n'est pas Dieu qui mène le monde. Il y en a un autre, celui qui inspire la bête, celui qui fait marcher les hommes d'une manière ou d'une autre et qui les manipule, qui les tripote, on peut dire ça comme ça, et qui leur fait croire que finalement tout ça c'est la vérité alors que c'est un mensonge éhonté. Et ce mensonge, il remonte au premier jour dans l'histoire de la création de l'homme, livre de la Genèse, au chapitre 3, et vous savez comment ça s'est passé. Donc, je ne reviens pas sur ce que nous avons dit la semaine dernière. Si vous voulez, tout ça s'est enregistré, s'est émis, hein, vous pourrez l'écouter. Mais aujourd'hui, nous allons avancer un peu plus loin. Il nous est dit que cette femme, elle chevauche cette bête, et nous allons voir avec l'explication que donne l'ange à, eh bien, à l'apôtre Jean. Nous allons voir ses origines, nous allons parler de sa nature, de son rôle, du but qu'elle s'est assigné et ses différentes formes par lesquelles elle s'est manifestée, par lesquelles elle se manifestera encore et également ses différents visages qui sont souvent des visages de séduction comme une prostituée et un visage ou des visages qui finalement eh bien là vont selon la complaisance des hommes, mais c'est redoutable derrière parce que le but c'est tout simplement eh bien détourner les hommes, l'humanité de l'adoration de Dieu pour l'amener à l'adoration de l'ennemi de Dieu, Satan, le diable, etc., etc. Nous avions également, et nous nous étions arrêtés sur ce fait, c'est que nous avions parlé des grands empires de l'humanité, de l'histoire, hein, des civilisations passées. Et on avait dit quelques mots, et on va le revoir brièvement encore aujourd'hui. Mais ces grands empires sont des choses qui sont constatées, on le retrouve, les archéologues remettent tous les jours à la lumière eh bien, ce monde qui a été enfoui dans le temps et puis souvent dans la poussière. Donc, on avait parlé de Babel. La première Babylonie, où les hommes ont été confondus dans leur langage pour avoir, eh bien, orgueilleusement dressé une tour pour défier Dieu. Bon, ça, c'était la première chose, dont le premier roi était Nimrod. Hein. Et puis, nous avions parlé également de ce qui est beaucoup plus connu dans la Bible, de Babylone, avec son grand roi, la tête d'or selon la prophétie de Daniel, avec le grand roi Nebuchadnezzar, ou qu'on appelle Nebuchadnezzar. Et puis, voilà qu'il y a encore un autre empire qui arrive, c'est l'empire Médo-Perse, avec Darius ou les Darius. Et ensuite, l'empire gréco-macédonien. Je ne voudrais pas être très compliqué, hein, avec Alexandre le Grand. Voilà, les empires qui se succèdent les uns les autres. Et puis, Un qui nous est particulièrement familier, c'est l'Empire romain, avec les Césars, qui se sont succédés pendant vraiment près de 500 ans et peut-être plus de 500 ans. Alors, c'était un rappel. Maintenant, je voudrais aller un petit peu dans l'explication de ce que l'ange est en train d'expliquer à Jean. Et il est à dire que tous ces royaumes que je viens de citer, tous ces royaumes ont été des royaumes d'oppression. Le totalitarisme, hein, il y avait là un chef, le roi, l'empereur, et ils ont tous incarné à leur manière, chacun à sa manière, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan spirituel, eh bien, la bête, et ils ont tous péri. Voilà. Tous avaient quelque chose de particulier. Et ce qui faisait la force de ces empires, c'était leur religion et leur croyance. Si je vous parle de l'Égypte, hein, qui n'est pas citée là, mais si je vous parle de l'Égypte, on sait ce qu'était la religion égyptienne, avec les pyramides, avec tout le cérémoniel religieux et tout ça. Mais il y avait une caractéristique dans tous ces empires, c'était la magie et l'occultisme. Eh oui, ça c'était la croyance. Et nous voyons que toute cette humanité, eh bien, finalement, avait cette forme de dévotion, non pas au vrai Dieu, mais au faux Dieu. Et nous voyons que successivement, Babel s'est effondré, Babylone s'est effondré, l'empire médo-perse s'est effondré, a été vaincu par les armées fulgurantes d'Alexandre, et puis Alexandre a été balayé par tout simplement l'empire romain, voilà, et ça s'est fait sur des siècles et des siècles, mais avec une caractéristique, donc politiquement c'était des pouvoir totalitaire. Sur le plan, on pourrait dire, eh bien là, sur le plan spirituel, c'était véritablement l'idolâtrie des faux dieux, l'occultisme. Alors, on va aller un peu plus loin. Et nous savons que cette ressemblance, nous allons remarquer que cette bête semble avoir la facilité de se redresser après chaque défaite comme une renaissance, voire mieux une résurrection. Parce que c'est la même bête, qu'elle se manifeste à travers la Babylone ancienne, qu'elle se manifeste à travers l'Empire perse, ou à travers ce que nous avons cité. Il semble qu'elles sont vaincues, elles sont remplacées par d'autres civilisations, d'autres puissances, mais l'esprit est le même. Ça reste toujours la même chose. Et ça correspond, d'après les prophéties tout simplement de Daniel, eh bien, à quelque sorte à une renaissance. L'empire disparaît, mais le fond reste le mien, et ça semble comme une résurrection. Alors nous allons voir à partir du verset 8, nous reprenons notre étude. Il nous est dit « La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre sont, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était... parce qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. » Alors de dire que Babylone va revenir, de dire que l'Empire médo-perse va revenir, que l'Empire romain va revenir, on va voir dans quelle forme les choses se prolongent. Je voudrais quand même vous dire que la bête n'est pas morte. Hein. Elle est apparemment blessée. Elle disparaît dans ces formes qui les caractérisaient par les civilisations qui se sont succédées, mais elle n'est pas morte. C'est ce que nous dit le texte que nous avons vu. L'esprit de ces empires ne meurt pas. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Si nous retenons une chose, c'est que dans l'esprit, ça ne meurt pas. Il y a une constante, il y a toujours un fil rouge qui se passe d'une manière ou d'une autre et qui s'exprime de différentes façons, en fonction des peuples, en fonction des rois, en fonction de toutes sortes de paramètres. Mais une chose qui demeure, c'est l'occultisme et c'est la magie derrière tout cela. Alors avant de tenter une explication, je voudrais quand même mettre un bémol. La parole de Dieu nous prévient, et nous l'avons dans le verset 9, il est dit ceci, « C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. » Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne pouvons pas aborder le sujet sans véritablement demander et réclamer de Dieu qu'il nous donne l'intelligence, celle du Saint-Esprit, parce que je voudrais vous rappeler que quand Jésus nous parle du Saint-Esprit, il nous est dit que c'est l'Esprit de la vérité qui nous conduira dans toute la vérité. Alors, nous avons naturellement, notre intelligence, à laquelle nous n'avons pas abdiqué, Nous avons aussi en renfort l'histoire, parce que ce sont des choses qui se sont passées. Ce ne sont pas des prophéties à venir, mais une grande partie, ce sont des prophéties qui se sont réalisées. Et puis, on a la parole de Dieu éclairée donc par l'Esprit qui va nous conduire. Ceci pour dire que la prophétie ne pourra être totalement comprise que lors de sa réalisation finale. Alors attention, et je dis ce que j'ai dit la semaine dernière, attention aux spéculations hasardeuses. Disons simplement que ces royaumes et leurs dirigeants qui se distinguent de la bête, parce que la bête, je le rappelle, nous l'avions vu au chapitre 13, c'est un système humain, un système politique, tout en faisant partie des têtes. Il y a le système, il y a les têtes qui indiquent un empire mondial, un empire universel qui aura probablement dans les derniers temps, peut-être dans le nôtre, ou dans les temps qui vont venir, eh bien probablement l'aspect d'une confédération d'ampleur planétaire qui subira, on pourrait dire qui a déjà subi, mais qui subira des éliminations brutales. Ce sont les têtes qui tombent. On va le voir d'ici quelques instants, comme cela nous est dit à travers le verset 9, et nous reprenons notre lecture. Au verset 9, il nous est dit tout simplement « Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois, cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. » Voilà ce que nous déclare la parole de Dieu. Vous avez remarqué, il y a une profusion du chiffre 7. Alors, dans l'idéal, et selon l'explication de la Bible, le chiffre 7, c'est vu par Dieu, c'est le chiffre de l'absolu, de la totalité, de la perfection. Voilà. Mais là, ça revêt quand même une explication, ça demande une explication, parce que je vous l'ai dit et je vous l'ai répété durant toute cette étude, ça fait un an et demi qu'on est sur le livre de l'Apocalypse. Attention, il y a toujours la vérité, il y a toujours sa contrefaçon à côté. Il y a toujours quelque chose qui marche en parallèle pour induire les hommes en erreur. C'est le grand mensonge. Alors le chiffre 7 indique une intelligence surhumaine dans ce système qui est représenté par des têtes et qui fonctionne de cette manière. Alors il faut, comme nous l'avons lu tout à l'heure, de la sagesse pour résister à la fascination qu'exerce la bête. C'est ce qu'on appelle le monde. Quand l'apôtre Jean, le même, écrit dans son épître « N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde, parce qu'elles sont inimitié contre Dieu », c'est de cela que nous parlons. Et c'est vrai, et ça a été vrai à travers tous les temps, à travers toutes les époques. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, où nous sommes vraiment dans l'ère de la communication tous azimuts, où les informations nous arrivent, où il y a une profusion de courants de pensée, de philosophie, toutes sortes de choses, qui sont véhiculés autour de sur notre planète, et nous parlons avec un mot que nous connaissons bien aujourd'hui, c'est la mondialisation. Aujourd'hui, la Terre est un village. On peut pas dire autre chose avec ce qu'il y a, la technologie et tout cela. Donc, il y a donc sept têtes, nous l'avons vu, qui sont sept montagnes et sept rois. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les types de gouvernements, les têtes. Parce que c'est eux qui mènent les hommes, qui mènent les nations, qui font ceci ou cela. Toute leur puissance, des montagnes, c'est toujours très impressionnant une montagne, c'est majestueux naturellement. Et toute leur personnalité, les rois, vous comprenez? Voilà, c'est un petit peu décodé. Apporte à la bête, dont je rappelle, je l'ai dit il y a un instant, qui est un système mondial, un système mondain. Eh bien, c'est cette trinité, nous pourrions dire, eh bien tout cela apporte leur force et leur prestige. Et la force et le prestige est dévoilé à travers le verset 12 que je lis, verset 12 et 13, il est dit ceci. « Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. » Et on verra l'explication tout à l'heure. Voilà. Donc, nous voyons qu'ils vont contribuer au prestige de ce système mondial que l'on appelle la bête, et ils vont l'adapter. Ils vont le communiquer à l'église apostate, parce qu'on l'a oubliée celle-ci, hein. On en a parlé la semaine dernière, mais on va en parler encore maintenant. C'est-à-dire qu'il y a, en quelque sorte, la bête qui est chevauchée par cette femme, qui n'est qu'une prostituée, qui a véritablement renié la foi, eh bien, elle va épouser tout le système, la mentalité, la manière de vivre, la manière de faire, finalement, du système. Et nous voyons que, derrière tout cela, cette église apostate, eh bien, qui est l'allié de la bête, et qui est appelée à juste titre la grande prostituée, parce que, finalement, elle a laissé sa place, sur lequel la femme est assise. C'est ce que nous avons lu ensemble. Certains ont émis, quant aux sept montagnes, la ville de Rome, qui dispose de sept collines. Alors, moi, je ne vais pas faire de commentaires sur ça, mais beaucoup de commentateurs ont évoqué la chose de cette manière. À travers ces autorités qui ont régné à Rome, hein, à travers les puissants César romains, qui ont cédé leur place au souverain pontife. Alors, je ne veux choquer personne, mais il y a eu quand même une continuité sur le plan spirituel, pour ne pas dire de quelle origine est ce spirituel. Les Césars romains, je le répète, ont cédé leur place au souverain pontife, toujours au pied desquels les rois de la terre, encore aujourd'hui, vont faire allégeance. On est bien obligé de le constater. Les rois de la terre, quand il y a un président ou une autorité qui est nommée, à un moment ou à un autre, ils vont à Rome. Voilà. On le voit, la télévision nous le montre. Et dans le monde chrétien comme dans le monde non chrétien. Bon, hein, je ne pense pas que du temps de l'Union soviétique, on allait à Rome à l'époque, parce que c'était un autre régime. Mais aujourd'hui, c'est une autorité qui a sa raison d'être. Hein, politiquement, diplomatiquement, religieusement, et on le dira aussi, et elle prétendra aussi d'avoir une autorité spirituelle. Alors, voilà, les choses. Et on est passé, en quelque sorte, on est passé du césarisme, tout simplement, au papisme. Alors, je ne porte pas de jugement. C'est une constatation historique. Voilà, on arrête là. Dans la succession, souvent tragique de l'histoire, des têtes tombent. Nous avons lu ensemble, cinq sont tombées. Alors, je vais vous les rappeler. Nimrod, la Syrie, Nebuchadnezzar, les Mèdes et les Perses, enfin, voilà, hein, Darius, si vous voulez, Alexandre. Quant à Rome, qui est la sixième tête, cinq sont tombées. Et aujourd'hui, on peut dire que les cinq sont tombées. Parce que ça fait partie de l'histoire antique, l'histoire ancienne. Quant à Rome, qui serait la sixième, l'empire de Rome s'est effondré au Ve siècle sous les coups de boutoir des invasions barbares. Ça, on le sait. Et quand on relit le verset 10, on trouve ceci. Ce sont aussi sept rois, cinq sont tombés, il en existe, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester pendant un temps, ou peu de temps. Et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Voilà, là l'aboutissement c'est ça. On constate qu'il y a toujours une tête en pleine vigueur dans toute l'histoire de l'humanité, symbolisé par un système, un empire en quelque sorte, et la chose continue. Dans l'attente que surgisse la dernière, et c'est ça ce qui est intéressant, parce que c'est l'apôtre Paul qui nous dit que nous sommes beaucoup plus près aujourd'hui que finalement eh bien, nous l'étions auparavant. Et nous pourrions dire, nous qui vivons à la fin des temps, puisque le terme est employé dans la Bible, que véritablement nous sommes à la proximité du retour de Jésus-Christ et de l'avènement du Christ. Et de son apparition, justement, pour remettre eh bien, les choses en place. Alors, soyons attentifs. C'est vrai, je vous l'accorde, ce n'est pas toujours facile à comprendre. Mais je crois qu'il y a là, il faut retenir l'essentiel, il y a quelque chose qui nous conduit vers la réalisation des prophéties qui ne manqueront pas de s'accomplir. Et on avait commencé notre méditation la semaine dernière, où Jésus nous dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Alors, nous sommes observateurs de ce que Jésus nous dit. Et jusqu'ici, eh bien, les choses sont devant nous et nous voyons eh bien, là, la réalisation de certaines prophéties. Alors, je le disais il y a un instant, il y a toujours une tête qui est en vigueur, dans l'attente que surgisse la dernière, celle qui concentrera la somme phénoménale de puissance, de domination et voire même de férocité de toutes les précédentes réunies. Que tous ces empires de l'Antiquité, de Babylone jusqu'à Rome, représentés dans la statue de Daniel, chapitre 2 et chapitre 3 du livre de Daniel, prophétie de Daniel, la tête d'or, ensuite l'argent, ensuite il y a les reins, et puis ça finit après par tout simplement les pieds de fer et d'argile. Et nous voyons que tout cela est en préparation, et tout cela va tomber, il nous est dit, par une petite pierre qui est lancée au hasard, enfin il n'y a jamais de hasard, et qui va effondrer toute cette civilisation humaine d'orgueil, de sauvagerie, de guerre et de sang. Et cette petite pierre, c'est l'Évangile, incarné par Jésus-Christ, qui renverse tout cela. Ce que je voudrais quand même vous faire remarquer, que toutes ces grandes civilisations, donc maintenant nous les trouvons dans les musées, c'est tout ce qui nous reste, avec peut-être des histoires mythologiques, mais il y a finalement un empire qui demeure à jamais, selon les prophéties de David, le roi David, qui demeurera toujours, eh bien, c'est le message de l'Évangile que Jésus nous a apporté. Parce que c'est pas un empire extérieur, c'est un empire intérieur de l'homme. Et il transforme. Et les règles de cet empire, la base de cet empire, c'est l'amour. Et ce que nous n'avons jamais trouvé dans tous les grands empires, c'était la force, c'était la gloire humaine est faite de sang et de feu. Alors que le message de l'Évangile, c'est tout à fait autre chose. Naturellement, ça, on le sait. Alors, cette huitième dont il est parlé, qui sera l'aboutissement de tout, et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'il faut être assez perspicace et observateur. Pouvons-nous en déduire, c'est la question que je pose, pouvons-nous en déduire que la sixième, qui représente Rome et l'Empire romain, qui a été ensevelie dans les décombres de l'histoire, n'a jamais totalement disparu. L'Europe, la civilisation occidentale, marquée par la culture, par un état d'esprit, c'est encore aussi notre propre aujourd'hui. Combien nous, et en particulier notre nation française, combien nous sommes imprégnés de cette culture gréco-romaine. Eh oui, dans les arts, dans la manière de raisonner, même notre langue, Mais ça ne se limite pas au monde latin, naturellement. C'est l'Europe en général. Et quand il est parlé de viol, vous savez, on va s'y retrouver à un moment ou à un autre. Donc cet empire romain, il a été enseveli il y a bien longtemps. Mais comme les précédents, il n'a jamais totalement disparu. Dans les formes, oui, il a disparu. Mais dans l'esprit, non. Dans l'esprit, non. Parce que cela donnait deux grands courants dans l'histoire de ces derniers... ces 20 derniers siècles, le monde anglo-saxon, d'origine naturellement européen et puis chrétien, a envahi toute l'Amérique du Nord, et puis vous savez très bien que le monde latin a envahi l'Amérique du Sud. Donc nos cousins sont de l'autre côté, mais c'est quand même le monde occidental tout ça, voilà, avec une culture tout à fait particulière. L'Europe a eu un rayonnement extraordinaire, parce que c'était mis en attente, ce continent américain, de l'autre côté. Alors voilà, donc ça n'a pas disparu. Et tout cela a donné naissance à la septième tête qui correspond à notre civilisation occidentale que nous appellerons judéo-chrétienne, politico, culturelle et religieuse. Ouais, religieuse. N'oublions pas que... Et ça va peut-être vous rappeler des souvenirs d'école, parce qu'on l'a tous appris. N'oublions pas que ce qu'on a appelé le Saint-Empire romain germanique, ça vous dit quelque chose? Oui. A duré pendant près de 1000 ans, de 962 jusqu'à 1806, c'est-à-dire qu'il y a à peu près deux siècles. Oui, deux siècles. Lui aussi a été anéanti, ce Saint-Empire romain germanique. Dans les grands bouleversements du XIXe et du XXe siècle, et il a donné jour à notre société moderne que l'on appelle l'Union européenne des nations. Quant aux sorties de la guerre en 1945, le président des États-Unis disait que nous allions arriver à un nouvel ordre mondial, il ne savait pas qu'il allait dire véritablement la vérité. Hein. Un nouvel ordre mondial. Et aujourd'hui, nous sommes dedans. Alors, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous rappeler l'actualité, parce que nous sommes dans une difficulté. Hein, mais bon, voilà, il y en a toujours eu dans le monde. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose peut-être à tirer des événements de notre temps aujourd'hui. L'homme peut-être recule pour faire la guerre. Mais toujours est-il qu'elle se manifeste sous une autre forme, la guerre. Laquelle, cette union des nations, après s'être entretuées pendant des siècles et des siècles, ont enfin compris. Enfin, on verra avec l'Antichrist, parce que lui, il va remettre le feu aux poudres. Hein. Mais toujours est-il, laquelle union aboutira à la huitième tête? La dernière, annoncée ici, qui sera la plus terrible, qui sera le règne de l'Antéchrist. De courte durée, nous l'avons lu il y a un instant, hein, et dont la destination sera la perdition. Et pour que nous le comprenions bien, je vais encore relire une troisième fois la chose, parce que c'est quand même important. Ce sont aussi sept rois, cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Vous savez, le règne de l'Antéchrist, combien il durera? 3 ans et demi. 3 ans et demi de séduction et 3 ans et demi de persécution en outrance de l'humanité. Alors, nous en étions là. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même le huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Nous connaissons l'aboutissement de la pensée humaine, de tout ce système humain, de cette mondialisation d'une manière ou d'une autre, où Dieu est absent, parce que finalement, ce qui se passe dans notre monde du 21e siècle, c'est tout simplement le remake de la tour de Babel. Unissons-nous, faisons-nous un nom sur la terre, et nous allons défier Dieu dans le ciel. L'histoire de la tour de Babel, ça paraît une légende, mais finalement, ce n'est pas une légende du tout. C'est la réalisation sur des siècles et des siècles et des siècles de toutes ces tentatives, finalement, d'unir le monde pour défier Dieu. Ouais, c'est cela, hein, la question. Toute la question est là, c'est tout. Un monde, parce que la tour de Babel, c'était quoi? Ça se limite tout simplement, ça se résume tout simplement en un mot. Nous ne voulons pas que Dieu soit Dieu. Et nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Jésus donnera une parabole à ce titre d'ailleurs. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Enfin là, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. L'Église apostate, dont nous avons appelé la grande prostituée, est en lien étroit avec ce monde-là. C'est ce qui fait peut-être le trouble des hommes de notre monde aujourd'hui, en disant, mais quand on regarde l'Église, l'Église historique, l'Église qui est autour de nous, ils se disent, mais comment se fait-il? Ils se disent, mais si Jésus revenait, est-ce qu'il irait pousser les portes de cette Église-là, avec le phasme, avec la richesse, avec tout ce déploiement de pompe et tout le reste? Les gens sont choqués, hein? Et pourtant, ils y restent. Ils y restent. C'est quand même curieux, hein? On est loin de ce Jésus qui dit « Je suis humble et doux de cœur, doux et humble de cœur ». On est loin de ce Jésus qui prêche finalement, eh bien là, ce que nous connaissons dans l'Évangile, une transformation, une régénération, une renaissance. L'Église est campée, l'Église, cette Église dont nous parlons, elle est campée dans l'histoire du monde, politiquement, économiquement, financièrement et en tout. Et c'est elle qui mène un peu les choses, hein. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails parce que je veux respecter la conscience des hommes. Moi, ce que je peux dire simplement à tous les hommes qui écoutent, eh bien, ouvrez votre Bible, lisez votre Bible, laissez-vous investir par l'action du Saint-Esprit et lui va vous donner la compréhension des choses. C'est comme ça que nous avons découvert aussi, nous avons fait la constatation de cela. Et on comprend qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « moi, je me désolidarise de l'Église ». Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui? Elle représente une puissance impérialiste, une puissance qui domine la conscience des hommes, qui leur impose finalement de croire des dogmes, toutes sortes de choses. On est loin de la simplicité que Jésus nous laisse. Quand il priera à un moment donné dans l'Évangile où l'évangéliste Matthieu nous dit « Seigneur, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Eh bien, c'est ça l'Évangile. C'est une transformation. Mais cette Église-là, celle dont nous parlons, l'Église, la grande prostituée, oh, elle est fière, elle est puissante, et elle a tous les moyens de faire plier les hommes, d'une manière ou d'une autre. et en particulier par la culpabilité et un esprit légaliste. Ce n'est pas la liberté et ce n'est pas la grâce. Hein. Je peux vous le dire, on sait de quoi nous parlons parce que nous en sommes issus. On sait de quoi il s'agit. L'Église apostate est en lien donc étroit avec ce monde-là. Et le rappel des faits nous est donné à travers le verset 15, que je voudrais vous lire parce que je veux quand même citer les versets. Il nous est dit, alors l'ange dit à Jean, « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Voilà. Ce n'est pas une religion locale, c'est une religion, on pourrait dire, à caractère mondial. Voilà. Et vous savez que les foules, que les peuples, c'est l'image de la mer. Hein. C'est l'image de cette immensité de l'humanité. Quant à la véritable Église, et je voudrais quand même en dire un mot, l'Église de Jésus-Christ, elle se prépare à l'ultime combat, d'où elle ressortira victorieuse. C'est ce que nous dit le verset 14. « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. » Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Alors, mes frères et sœurs, n'ayez pas peur de l'Apocalypse, hein, si vous êtes du bon côté. C'est un livre d'espérance, c'est pas un livre de jugement pour nous. C'est pas un livre de condamnation, c'est un livre où Dieu nous dit « Mais levez les yeux, je viens, la délivrance approche. Le figuier a fait des feuilles, regardez. » Et c'est ce qui nous donne cette espérance et cette force. Cette conviction à l'intérieur de nous-mêmes. Et notre conviction, elle n'est pas née parce que ça fait partie d'un mouvement religieux, mais notre conviction, elle vient parce que la parole de Dieu nous le dit et que le Saint-Esprit est là pour nous dire tout simplement « Amen » à tout cela. Cette lutte extrême dont nous avons vu dans le verset 14, cette lutte est extrême et elle est finale, c'est un encouragement pour les fidèles parce que le message qu'elle nous laisse, c'est que le bien finit par triompher toujours. Il triomphe toujours du mal et que Dieu est le souverain sur le monde entier et dans l'univers entier. La justice triomphera. Le bien sera vainqueur du mal. La lumière confondra les ténèbres et ça sera la vie qui va remporter la victoire sur la mort. Voilà, ça c'est notre conviction de chrétien, tout simplement. Et ça nous donne, oh, j'allais dire, une pêche extraordinaire. Oui, je ne veux pas vous parler de la pêche qui était dans le jardin d'Éden. Hein. Bon. Alors, je vais bientôt terminer. Or, ce renversement inattendu va avoir des conséquences pour l'Église infidèle, parce qu'il va y avoir une réjection totale. Je dis bien pour l'Église infidèle, pas pour nous. La défaite de la bête va ouvrir les yeux à cette bête sur ce qui est réellement son allié, c'est-à-dire la grande prostituée. Et là, nous en arrivons au verset 16 qui nous dit « Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Ils mangeront ses chairs, ils la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Un même dessein est de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. » Qu'est-ce que cela signifie? On voit que la bête qui se déchaîne contre l'Église déchue et va lui faire aucun quartier. Ils ont été alliés, le monde et l'Église, ont marché ensemble. La bête chevauchée par la femme, par la prostituée. Mais à un moment donné, c'est pour ça qu'il est question de viol, vous savez, dans la mythologie. Ouais. Et à un moment donné, il va y avoir une rupture. C'en est fini de l'équivoque entre le temporel et le spirituel. Ce mélange équivoque, ce mélange qui laisse poser tant de questions aux hommes en disant « Mais comment se fait-il que l'Église marche avec le monde ? Comment se fait-il que l'Église soit mondaine ?» Laodicée, vous comprenez, hein, vous pourrez retrouver ça dans le livre de l'Apocalypse. Hein. « Comment se fait-il qu'elle soit si audacieuse, qu'elle soit si prétentieuse ?» Parce que je voudrais quand même vous dire que cette Église historique, elle a pris part pratiquement dans toutes les guerres entre les nations. Hein. Écoutez, Gottmitt Hons hein, sur les ceinturons des Allemands, et puis nous, de notre côté, c'était Dieu avec nous. Alors qu'est-ce que vous voulez, le même Dieu hein. On comprend que les gens ne comprennent plus, ils se disent « Mais comment se fait-il » Parce qu'elle avait un pouvoir, elle avait une aspiration au pouvoir et à la domination des peuples. C'était ce qu'on peut appeler finalement le bras, hein, le bras armé de l'Église, hein, les nations, les rois, les royaumes, etc. etc. C'est terrible, hein, mais c'était pourtant ce qui s'est passé dans toute notre histoire, hein, quitte à recourir à l'Inquisition, toujours du bon côté, enfin toujours du côté du plus fort, hein, de toute manière. On est loin de les paroles de Jésus quand il nous dit « Mais si quelqu'un, eh bien, te maudit, si quelqu'un te frappe, tu tends l'autre joue. Hein. Donne ton manteau à celui qui te le demande. Bénissez ceux qui vous persécutent. Hein. Ne maudissez pas. » On est loin de ce modèle-là évangélique rapporté par le sermon sur la montagne. On est loin de tout ça. Alors, à un moment donné, il va y avoir ce renversement et nous voyons que le monde ne va faire aucun quartier à l'Église apostate. Et il va y avoir une séparation entre le temporel et le spirituel, parce que c'est une alliance contre nature, entre le pouvoir d'État ou le pouvoir des États et l'Église. Le jugement de la grande prostituée s'exécute, et nous le voyons à travers le verset 6, il nous est dit, verset 16, pardon, il nous est dit dans ce passage, je relis la fin parce que c'est intéressant de voir comment ça va se passer. La bête haïra la prostituée, ils la dépouilleront et la mettront à nu, ils mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a 6 châtiments qui vont être infligés à l'Église apostate, à la fausse Église de Jésus-Christ. 6 châtiments qui sont conformes à la loi du talion. C'est pas la grâce, c'est la loi du talion. Comme elle a fait, il lui sera fait. Parce qu'elle n'a pas haï le monde lui vouera une haine impitoyable, implacable. Parce qu'elle n'a pas voulu être épurée au désert, puisqu'on a commencé notre lecture par cela, elle sera dépouillée et isolée. Parce qu'elle s'est parée de vêtements somptueux, le monde la mettra à nu. Parce qu'elle a pris soin de la chair, ils mangeront ses chairs. Parce qu'elle n'a pas été salée de feu et du feu du Saint-Esprit, ils la consumeront par le feu et par la guerre. Voilà le sort de l'Église chrétienne qui a renié Jésus-Christ, qui en a l'apparence, selon l'apôtre Paul qui écrit à Timothée, elle a tout simplement l'apparence, mais elle renie ce qui en fait la force. Et la force, c'est notre foi dans la grâce et dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et pas dans les bonnes œuvres. Pas dans les mérites, pas dans les indulgences, pas dans un système représenté par un homme qui serait le vicaire du Christ et tout ce que voudrait. Et puis, on parle de l'Église romaine, mais on pourrait parler tout autant de l'Église orthodoxe grecque, parce que ça fait partie aussi du christianisme, où là, il y a une idolâtrie considérable. C'est terrible. Le jugement de la grande prostituée passera par là où elle a péché, et sera exécutée par cela même qu'elle a préféré à son époux légitime, qui est le Christ. Et c'est une étrange répétition de l'histoire, comme nous le dit le prophète Ézéchiel, et je lis simplement le texte, Ézéchiel 23, où il est dit ceci, c'est le nom d'une femme, hein, Ohola, dans le texte, hein, me fut infidèle, dit Dieu. Elle s'enflamma pour ses amants. Les Assyriens, ses voisins, vêtus de toffes teintes en bleu, gouverneurs et chefs, tous jeunes et charmants, cavaliers montés sur des chevaux, elle s'est prostituée à eux, à toute l'élite des enfants d'Assyrie, elle s'est souillée avec tous ceux pour lesquels elle s'est enflammée, elle s'est souillée avec toutes leurs idoles, c'est l'idolâtrie, hein. Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte. Et la suite, elle n'est pas mal, vous pourrez le relire, chapitre 23, Ézéchiel. Voilà. L'Église, la véritable Église, doit rester fidèle à Jésus-Christ et à sa parole et vivre de la communication du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, que reste-t-il dans l'Église historique de tout cela? Oh, il y a des grands messes, il y a des cultes, il y a des grands rassemblements, il y a de grandes choses qui sont pompeuses, ça c'est sûr, où on fait appel à l'âme mais pas à l'esprit, puisque Jésus a dit les vrais adorateurs, ce sont ceux qui m'adoreront en esprit, en vérité. Et non pas avec ce que condamne le premier des 10 commandements, tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne te prosterneras pas ni dans ce qui est en haut, ni dans ce qui est en bas. Parce que Dieu est esprit et vérité. Et nous voyons que cette Église qui normalement a devait exclure toute idolâtrie est retombée dans l'idolâtrie. avec le sensitif, avec le sensuel, avec ce que l'on sent, ce que l'on entend, ce que l'on touche. Notre Dieu est un Dieu invisible, mais il est présent. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et on n'a pas besoin, regardez, on n'a pas besoin de représentation. Ça, c'était l'ancienne croyance, toutes les anciennes croyances de l'Antiquité, où les gens se faisaient là toutes sortes de représentations, mais ça se fait encore aujourd'hui. Alors moi, je termine et je voudrais simplement dire que la morale consiste en une séparation. Si nous ne voulons pas partager le même sort, car il est de règle qu'après avoir couru éperdument après tous les plaisirs et les folies, les fausses doctrines et toutes ces séductions que le monde, y compris l'Église, présente aux hommes, eh bien les hommes finissent toujours par l'endurcissement contre Dieu. Et écoutez, on n'est pas dans un monde qui est prêt à se convertir. L'endurcissement contre Dieu. Nous sommes d'accord pour dire, ici et ailleurs, combien il est difficile de gagner des âmes au Seigneur. Combien il est difficile parfois même de garder des enfants de Dieu fidèles au Seigneur. Parce qu'il y a le monde, parce qu'il y a tellement de séductions, tellement de tentations, parce qu'il y a tellement aussi de fausses doctrines qui s'apparentent peut-être au christianisme et qui n'ont plus rien à voir avec le christianisme. Et les gens sont séduits. Alors, quand on leur dit « mais venez », on leur cite les paroles de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », parce que le monde, il est fatigué et chargé, il est malheureux, il est dans le désespoir et dans l'angoisse. Ils disent, « Mais écoutez, moi, j'en ai pas besoin. Moi, Dieu n'existe pas. » C'est terrible. Alors, on comprend qu'il y a un endurcissement. On ne veut même plus entendre parler de Dieu. Je tiens quand même à le souligner, en parenthèse, quand on a touché à l'occultisme, à la magie, aux fausses doctrines, à toutes ces choses qui sont des perversion de la conscience, de l'âme, de l'esprit, eh bien on a du mal après à croire à la vérité. Parce que le but du diable à travers l'occultisme et l'idolâtrie, c'est de fermer le cœur des hommes à double tour et de faire comme Pharaon, qui lui, à un moment donné, s'est tellement endurci, après la sixième plaie, il nous a dit que c'est Dieu qui a endurci son cœur. Parce que le phénomène qui arrivera dans les derniers temps, c'est ce qu'il nous est dit dans Thessaloniciens, c'est Paul qui l'écrit, il dit « Mais les hommes se perdront parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. » Et c'est ça ce qui sauve, l'amour de la vérité. Et je crois que nous sommes exhortés les uns et les autres à demander à Dieu qu'il nous donne de la perspicacité et du discernement spirituel. Parce qu'on est tous, on peut tous tomber dans toutes ces erreurs. Et elle est séduisante, la grande prostituée. Si elle est appelée comme ça, c'est parce que justement, il y a quand même un rapport. Alors, le monde s'endurcira contre Dieu jusqu'au point de non-retour. Et alors, finalement, ça sera la fin. Et quand l'Antéchrist va venir, tout sera préparé. Et il dira, mais écoutez, c'est moi qui suis Dieu. C'est moi, puisqu'il nous a dit qu'il ira jusqu'à s'asseoir sur le trône de Dieu. Voilà, ça sera l'ultime mensonge des derniers temps. Et quand les hommes voudront faire demi-tour, il sera déjà trop tard. Maintenant, il n'est pas trop tard, mais aujourd'hui. Mais peut-être que ça sera très difficile dans la deuxième partie du règne de l'Antéchrist, c'est-à-dire dans les derniers 3 ans et demi. Parce que là, on ne sera plus en séduction, on sera en persécution. Mais le Seigneur a certainement la réponse. Ils seront punis, les hommes seront punis, par les conséquences de leur propre déraison. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur, nous dit Paul dans Romains chapitre 1er. Tel est le sort tragique qui attend désormais la grande Babylone. Alors retentit l'appel solennel et ultime sur lequel je terminerai cette partie de l'Apocalypse. C'est ce que nous verrons la prochaine fois dans le chapitre 18, dans le mois de décembre. Il est dit ceci, Apocalypse 18, verset 4, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez pas part à ses fléaux. » Alors mes frères et mes sœurs, je voudrais vous encourager, gardons fermement la foi que Dieu nous a donnée. Ouais. Ce n'est pas une église qui sauve, ce n'est pas un mouvement qui sauve, ce n'est pas un pasteur qui sauve, ce n'est pas un prêtre qui sauve, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, à cause de son sacrifice, de sa parole et du Saint-Esprit, qui nous conduit à marcher dans la lumière et dans la vérité. Seigneur, donne-nous l'amour de la vérité, l'esprit de vérité. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous sommes avertis des temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui et nous pouvons constater, Seigneur, peut-être à la différence des hommes qui vivaient il y a des siècles avant nous ou même peut-être des décennies, c'est qu'aujourd'hui l'information nous arrive.